émission.
Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de démarrer. Aujourd'hui, donc, nous allons effectivement aborder le sujet de la réponse aux sollicitations des parties prenantes au travers de votre stratégie RSE. Et avant de démarrer, j'ai juste, vous, voilà, juste le petit sommaire de deux temps forts où on va d'abord nous introduire le sujet, puis après on passera directement à la conférence et aux speakers qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui pour justement nous présenter leur retour d'expérience en la matière. Donc à nos côtés, on a la chance d'avoir Rodolphe Bernard, qui est directeur du pôle innovation du LCL, et puis également Fabien Gauthier, qui est responsable RSE QSE au sein du groupe Géotech, qui vous en parlera tout à l'heure. Et puis nous concernant, nous sommes tous les deux, donc moi, Émeric Morois et Christophe Dory, associés du réseau CRO. Juste en quelques mois avant de démarrer, le réseau CRO, c'est un réseau, on est le 9e réseau international de cabinets d'expertise comptable et d'audit dans le monde, et de conseil, exactement. Et aujourd'hui, en France, on représente 14 cabinets indépendants, avec un chiffre d'affaires de 126 millions d'euros, et on emploie 1200 salariés. Voilà. Christophe, je te laisse la main pour démarrer peut-être, puis après je reprendrai la main.
Une partie un peu indispensable mais très rapide sur le réglementaire pour vous dire un peu où on en est aujourd'hui, sachant que le sujet, ce n'est pas de parler du réglementaire ni de la future CSRD actuellement, la DPEF, mais c'est de laisser la parole à nos speakers et puis le sujet éventuel et essentiel des parties prenantes au sein des PME pour les PME. Donc effectivement, là, on indique un certain nombre d'éléments, notamment que pour les PME, elles ne seront pas forcément toujours directement impactées par le réglementaire, mais finalement, elles le seront quand même pour d'autres raisons, et notamment parce qu'elles sont des parties prenantes et que souvent, elles travaillent avec des groupes ou des sociétés qui elles-mêmes sont dans les périmètres de la réglementation. Donc ça, c'est pour un petit calendrier, mais vous pourrez vous y reporter, donc je ne vais pas m'y attarder très longtemps. Pour indiquer que, évidemment, toutes les applications, vous voyez que ça s'étend à partir de, déjà depuis un certain temps, mais si on prend la base de 2024, au moins jusqu'à 2028, en termes de taille d'entreprise, de normes qui sont en train d'être édictées, qui sont en train d'être transposées, principalement les normes européennes, qui ont déjà été, la directive ayant déjà été adoptée. Donc maintenant, c'est la transposition qui va l'être avant le 8 décembre de cette année, transposition en loi française, puisqu'à partir de la date de 2022, les pays européens avaient 18 mois. La France a choisi d'aller plus vite que les autres, parce qu'on veut toujours aller plus vite, pour des raisons assez évidentes. Et donc, normalement, la transposition devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023. Donc, dans ces éléments et des parties réglementaires, vous allez avoir tous ces termes que vous connaissez déjà plus ou moins, peu ou prou. La CSRD qui est donc le reporting qui remplace la DPEF aujourd'hui, déclaration des performances extra-financières que rédigent déjà un certain nombre d'entreprises si elles sont dans le périmètre. Mais les PME, la plupart du temps, ne le sont pas aujourd'hui. Un reporting sur la taxonomie, tous des éléments de CAPEX et autres concernant le chiffre d'affaires et les investissements des entreprises, et puis des éléments réglementaires habituels qui évoluent avec la réglementation européenne. Ici, c'est pour vous montrer un petit peu, les points d'ancrage, et notamment l'année 2023, qui est une année charnière, puisqu'à partir de 2023, on est dans une application progressive jusqu'à la fin de l'année, et les applications complètes vont démarrer en 2024, puisque la CSRD va démarrer à ce moment-là, voilà, pour les entreprises concernées. Donc là, aujourd'hui, on en est là, c'est ce que je vous disais. Donc on arrive début octobre avec le projet qui est stabilisé. Ça passera au Conseil d'État et au Conseil des ministres, et normalement, la transposition en loi française va être effectuée, sera effective au plus tard le 8 décembre de cette année, donc dans quelques semaines. Alors, les mesures clés de cette CSRD sur lesquelles on ne s'étend pas, je ne vais pas m'étendre, mais la double matérialité, c'est quoi ? Alors, c'est un peu un serpent à 6 têtes, à 8 têtes, à 10 têtes. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'expliquer ça de façon compliquée. Moi, je vais juste vous dire une phrase. C'est l'impact de c'est quoi la double matérialité ? C'est ce qui a été adopté en loi européenne et notamment en France, contrairement aux anglo-saxons qui n'ont que la simple matérialité. C'est l'impact de la RSE sur les entreprises, Et c'est l'impact des entreprises sur la RSE. Voilà. C'est cette double, de ce double impact qui est analysé et qui est effectif. Les transpositions, donc ça, on vient d'en parler. Et je laisse la parole maintenant à Aymeric qui continue sur la partie principale des parties prenantes. Merci.
Donc oui, effectivement, au travers de ce calendrier, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont être impactées de près ou de loin par tout ou partie de leur partie prenante, puisqu'effectivement, la CSRD va entrer en vigueur l'année prochaine, toucher de plus en plus d'entreprises. Et au travers de ça, les PME et les TPE vont à minima être dans l'obligation de devoir répondre à certains critères en matière ESG. Alors là, je vous ai listé quelques parties prenantes parce qu'il faut bien, faut pas perdre de tête que finalement l'entreprise n'est ni plus ni moins qu'un écosystème. Et autour de, cet écosystème, on retrouve différentes parties prenantes avec des attentes bien particulières. Alors ici, je vous en ai listé quelques-unes, hein, c'est pas exhaustif, mais voilà, dans les parties prenantes, on va retrouver effectivement les investisseurs, les clients consommateurs, les banques et institutions, les employés, fournisseurs, communautés locales, régulateurs. Et ça, bien sûr, ben, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et de sa taille, effectivement, ben, l'importance des parties prenantes va être plus ou moins importante avec des attentes en la matière, bien entendu. Alors finalement, comment répondre à ces attentes? Alors ici, voilà, je vous ai proposé une petite chronologie, effectivement, qui peut être appliquée. La première étape pour vous, pour prendre en compte les parties prenantes, déjà, c'est de les identifier. Hein. On en est mis, c'est le premier stade. Donc au travers déjà de ce que j'ai pu vous proposer juste avant. En matière de parties prenantes, voilà, on va retrouver des parties prenantes qui sont internes ou externes. Le plus important pour vous, ce sera de les classer finalement, je dis par niveau d'influence, c'est-à-dire quels sont les impacts finalement de l'activité sur l'entreprise. Donc niveau d'influence, et on retrouve voilà, généralement ce qui se fait, c'est on fait vraiment une cartographie des parties prenantes où on va avoir leur niveau d'impact sur l'entreprise. Et puis également, l'autre point où justement ça va permettre de rentrer dans l'analyse, c'est les modes de dialogue. Parce qu'effectivement, on ne dialogue pas de la même manière avec un investisseur, un actionnaire, une banque, des salariés. Donc voilà, bien comprendre quels sont les modes de dialogue de chacune de vos parties prenantes. Et puis après, effectivement, on va rentrer dans la phase d'analyse, on va pouvoir réaliser des études, des enquêtes, des revues de presse, etc., afin de récolter un maximum d'infos. Troisième étape, alignement de la stratégie ESG avec les attentes des parties prenantes. Bon, là, il va falloir confronter ce que vous avez déjà mis en place, finalement, ou en matière de stratégie ESG dans l'entreprise, avec la réponse, finalement, de vos parties prenantes. Et ce, afin d'avoir un plan d'action à mettre en place, de choisir des choix d'amélioration par rapport à votre stratégie initiale, et puis de collaborer avec les parties prenantes. Puis on arrive dans une phase qui est après un petit peu plus récurrente, où on va avoir effectivement le choix des indicateurs, la collecte des données, et puis le partage des actions à travers de rapports, l'aide d'information, etc. Petit point important quand même, la stratégie ESG, bien sûr, ce n'est pas seulement la réponse des parties prenantes, c'est vraiment une stratégie propre à l'entreprise. Et là où il faudra bien faire attention aussi, c'est que la seule réponse finalement aux attentes des parties prenantes, elle n'est pas forcément la seule, elle est même parfois contradictoire avec les priorités de l'entreprise, elle peut même l'être entre différentes parties prenantes. Donc après, à vous de mettre le curseur au bon endroit. Il y a un outil qui est assez utilisé, que je vous partage là, qui est un exemple de matrice d'ailleurs, ce qu'on appelle la matrice de matérialité, on en a parlé juste avant, qui permet de définir les enjeux clés d'entreprise, justement en fonction des parties prenantes et de l'impact de l'activité sur l'entreprise. Je vous ai donné ici l'exemple de la matrice de matérialité du groupe Getlink, qui a été fait en 2022. Où justement, on retrouve à la fois la partie importance des parties prenantes et l'impact sur l'activité, et on voit bien les enjeux stratégiques et clés qui ont été déterminés en fonction de ça. Donc cette matrice-là, elle découle vraiment de cette phase précédente. Donc ça, voilà, c'est sur la partie stratégique. En matière de pratique ESG, alors nous, on s'est appuyé sur une étude que vous connaissez peut-être, qui s'appelle une étude RSE de la société Vendredi, Work for Good, qui a effectivement sondé 790 entreprises engagées avec plus de 14 partenaires. Et donc, du coup, ils ont questionné effectivement sur les différents volets environnemental, social et gouvernance, les actions qui ont été mises en place dans l'entreprise en matière de ESG. Je vais aller assez vite, je vous laisserai lire l'étude parce que le temps défile. Mais sachez que, par exemple, sur la partie environnementale, on a un gros enjeu sur la sensibilisation des salariés. Sur les formats adoptés, ça va être surtout des formats qui sont assez connus, tels que la fresque pour le climat ou des formations ou des sensibilisations au niveau des salariés. On va retrouver une thématique sur les achats responsables qui reste majeur, et puis le bilan carbone qui reste aujourd'hui un élément essentiel. Voilà, 75% des sondés ont réalisé aujourd'hui un bilan carbone, donc c'est quand même pas anodin. Sur le volet social, on va avoir effectivement des critères d'index. Hein. Donc là, ici, l'égalité, par exemple, homme-femme, qui reste un sujet important, ou la politique sociale dans l'entreprise. On va retrouver, et puis également sur le volet gouvernance, alors là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'entreprises sont engagées sur ce volet-là. Et en matière d'action, ce sera principalement de la collecte de matériel informatique ou autre, des événements caritatifs, du mécénat, voilà, avec un critère dégressif, et on finit par les appels à projets. Autre tendance, l'environnement, qui reste quand même aussi une cause très très soutenue. Et c'est peut-être un peu la synthèse de ce qu'on dira aujourd'hui sur ce volet ESG, où finalement, que ce soit sur du sociétal ou que ce soit sur la prise en compte des salariés dans l'entreprise, l'environnement reste un sujet majeur. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de mots introductifs. Peut-être que justement, ce sera l'occasion aussi à nos intervenants de parler de ce qu'eux ont mis en place et si on retrouve effectivement ce type d'action dans leur entreprise. Et pour démarrer cette table ronde, finalement, je vous propose par exemple, Rodolphe, de vous présenter peut-être votre structure, votre parcours et puis votre rôle. Voilà.
Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et puis, ravi de partager l'expérience et le retour d'expérience avec vous tous dans la salle aujourd'hui. Donc, moi, je suis Rodolphe Bernard. Je suis le directeur du pôle innovation du marché des entreprises chez LCL, entreprises et institutionnelles, qui regroupe les PME, les ETI, les grands comptes, à la frontière ensuite du CAC 40, qui est géré par nos petits cousins de CACIB au sein du groupe Agricole. LCL est une filiale du groupe depuis 2003. Ça fait 25 ans que je travaille chez LCL, principalement dans les différents métiers du réseau commercial, des particuliers d'abord, et du marché entreprise ensuite. Et à partir de 2014, arrivé au siège en fonction pour gérer les sujets du marketing, de la communication de ce marché, B2B, et toute la trajectoire digitale du marché, qui était à écrire à l'époque. Et on a construit un certain nombre de projets de transformation digitale importants pour notre marché. Ça continue d'ailleurs derrière aujourd'hui, c'est pas tout à fait abouti, mais on a eu l'idée finalement que dans une banque, plutôt banque de détail, hein, le marché entreprise pèse à peu près une quinzaine de pourcents du revenu, 4% des effectifs et 0,01% du plan IT budgétaire octroyé. On avait plutôt intérêt dans ce pôle innovation qu'on voulait créer pour se différencier, pas forcément d'innover sur des tas de sujets du digital, de l'intelligence artificielle ou que sais-je, mais plutôt d'imaginer un programme d'accompagnement à la transformation de nos clients qui eux-mêmes étaient confrontés aux mêmes problématiques digitales, environnementales, sociétales, humaines, et qui avaient encore moins de moyens et de façon de prendre le sujet. Et on avait un rôle assez magique de tiers de confiance par essence, qui est notre rôle de banquier conseil au quotidien. L'habitude d'essayer d'aider nos clients et nos prospects depuis 160 ans qu'LCL et avant Crédit Lyonnais existent, à se développer. Et je vous fais un peu réfléchir sur ce thème du développement commercial, qui draine un peu comme ça nativement dans le cerveau de nos chargés d'affaires, comme dans le cerveau de tous nos dirigeants, l'habitude d'essayer de croître, voilà, avec les revenus, l'argent, les euros, le PNB, le PIB, tout ce que vous voulez derrière, et de le faire de la façon dont ils étaient habitués, dont ils avaient été formés pour le faire, mais d'être confrontés en ce moment, depuis quand même pas mal de temps, à des percussions technologiques, humaines, sociétales, climatiques, des changements importants, rapides, permanents, itératifs, sur lesquels les méthodes d'avant, des fois, ça ne fonctionnait pas aussi bien. Et on y était confrontés. Et comment est-ce qu'on allait faire, avec qui, sur quel sujet? C'est comme ça qu'est né, finalement, le programme dont j'ai la charge depuis 5 ans dans ce pôle, qui s'appelle LCL Smart Business. C'est un programme d'accompagnement à la transformation de nos clients, de nos prospects sur ces sujets-là. On a ouvert tour à tour 4 univers de transformation, innovation R&D, la cybersécurité, les sujets autour du green et de la RSE, et les thématiques autour de la RH, capital humain. On a labellisé des partenaires tiers, c'est le modèle économique de Smart Business. On peut les labelliser, on peut les choisir, on peut les sélectionner pour leurs éléments différenciants d'accompagnement de nos clients. Et puis on les prescrit de façon qualifiée, puisqu'on noue le dialogue stratégique en permanence dans notre métier de banquier avec ces mêmes clients, très régulièrement, en physique. En plus, on les voit, on leur parle, c'est des humains, tout ça, c'est pratique. Il y a de la relation, et ça importe la relation dans notre métier, puisqu'on est des fournisseurs d'argent. Mais on est aussi des conseils, en fait, aux côtés de nos clients. Et il y a de la concurrence sur ces métiers-là. Donc forcément, une PME, en moyenne, c'est 4 banques, une ETI 6 ou 7, et un grand compte toutes. La part de chacun, le rôle de chacun dans ce pool, c'est pas le même. Donc si on veut se différencier, peut-être qu'en nouant ce dialogue stratégique un peu plus intelligemment que les copains, en étant plus à l'écoute aussi des besoins, des problèmes de nos clients, on pourra leur apporter des solutions concrètes avec nos partenaires et évidemment au passage financer les besoins de transformation, de transition qui nécessitent des investissements. Quand on est à l'origination de la détection des besoins, c'est plus facile d'être les mieux placés pour le faire. C'est comme ça qu'est né Smart Business en 2018. On est au millième client accompagné 5 ans après, à peu près 10% de notre base de clientèle aujourd'hui, sur des missions conseils de nos différents partenaires. Et donc ça nous donne une bonne vision nationale, y compris en région, des problématiques courantes de ces sujets-là. Et avec le Covid, évidemment, je terminerai cette phase de présentation, le sujet de la RSE, du green, qui est devenu un peu le business, a drivé beaucoup les différents partenaires qu'on a labellisés, avec les problématiques réglementaires qui nous touchent, nous, en tant qu'établissement financier. J'y reviendrai juste après dans le retour d'expérience, et qui touchent aussi, évidemment, nos clients de façon très mêlée, puisque, sans que vous le sachiez, messieurs, dames, mais votre carbone, en fait, c'est notre carbone. Si on maintient la relation bancaire avec vous dans la durée, votre carbone, c'est notre carbone. Et donc, si vous n'êtes pas vous-même vertueux sur vos transitions bas carbone et vos trajectoires bas carbone, bah, nous, on ne le sera pas dans les engagements qu'on a pris d'être net zéro en 2050, puisqu'on a fait partie de la quinzaine de banques mondiales et d'assureurs mondiaux au Crédit Agricole, principalement mutualistes, qui ont fait ce choix. Et donc, on vous a embarqué, en fait, finalement, dans notre scope 3 aval, sans vous le dire. Et on est maintenant dans le même bateau pour essayer de faire un peu mieux sur ces sujets-là. Donc, avant d'y mettre des contraintes, c'est pas mal aussi d'y mettre des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé d'imaginer avec Smart Business.
Merci, Rodolphe. On va laisser la parole à Fabien. Je voulais juste dire que le sujet, n'oublions pas le sujet, hein, PME, partie prenante, il faudra que... Mais tu vas répondre aux questions. En tout cas, tu vas faire ça après, Rodolphe. Tu vas expliquer aux gens de la salle en quoi le LCL, qui est quand même une grande entreprise, est proche des PME et donc des parties prenantes. Voilà. Et c'est l'objet également... Que va développer Fabien dans sa présentation et après. Merci.
Donc Fabien Gauthier, moi je suis responsable QSE et j'ai repris la casquette de responsable RSE pour le groupe Géotech. Groupe Géotech, c'est une entreprise familiale qui a beaucoup grossi ces dernières années. Et notre cœur de métier, c'est tout ce qui est études de sol. Donc on a deux aspects, beaucoup d'ingénierie et une partie chantier. Et en fait, on participe à tous les projets de construction, et ça va du particulier qui veut construire sa maison jusqu'à tous les projets d'infrastructure, tunnels ou même éoliennes offshore, ce genre de projets. Aujourd'hui, la manière dont on a structuré, nous, chez Géotech, ça, c'est qu'en fait, on avait un directeur qui était très partie prenante et qui a intégré assez tôt, en fait, dans son projet d'entreprise, le sujet de la RSE. Et alors qu'on était une entreprise, ben aujourd'hui on est 900 collaborateurs, au moment où on était plutôt une structure de 400 salariés. Et du coup, on a doublé de volume depuis cette date-là, voilà, qui était en 2018. Je vais m'arrêter là pour la présentation.
Oui, en fait, donc, vous êtes en train de dire que vous étiez une PME, que vous n'êtes pas une grosse PME maintenant, mais qu'on soit PME ou ETI, peu importe. Hein, c'est, quand on met PME, ça peut être aussi une ETI, on peut être une grosse PME qualifiée d'ETI. Tout ça, c'est des histoires de chiffres. Ce qui est intéressant, je crois, pour vous, PME ou ETI ou future ETI, c'est d'avoir le retour d'expérience de ces speakers et de ces entreprises. D'une PME qui devient une ETI, ça peut être bien ou pas bien, mais peu importe, le sujet n'est pas là, que vous puissiez entendre le retour d'expérience puis poser vos questions, effectivement. Donc maintenant, je pense qu'après ces présentations, on va voir le lien qui existe entre les speakers qui représentent leur entreprise et les PME que vous êtes peut-être ou que vous êtes en phase de devenir. Voilà. Et puis vous pourrez poser vos questions. Je ne sais pas, Rodolphe.
Peut-être la première question, je vois, c'est en quoi notre activité
est impactée. En quoi votre activité est impactée par les demandes ESG, effectivement.
Bon, les banques, comme les entreprises en général, et nous, on était soumis à la DPEF depuis un petit moment. Alors, il y a celle d'LCL, il y a celle du groupe Crédit Agricole, elles se sont combinées de façon consolidée, mais globalement, nous imposent évidemment beaucoup de normes et beaucoup de reporting aussi. Le sujet, peut-être, c'est qu'à un moment donné, on a un certain nombre de nos dirigeants qui ont été, je pense, sensibilisés sur les sujets du climat. Et ça part quand même déjà à la base de ça. Est-ce qu'on croit au sujet du climat aujourd'hui et des problématiques qui sont associées? C'est pas si évident que ça. On a beaucoup vu de ma fenêtre de biais cognitifs sur ces sujets-là, de méconnaissance, Et quand vous discutez de ces sujets-là, qui font un peu consensus maintenant au niveau scientifique, ben, ce n'était pas si évident que ça il y a une dizaine d'années d'une part, et on est encore parfois très en désaccord ou en méconnaissance de beaucoup de choses. On croit que, et puis finalement quand on découvre une fresque du climat ou d'autres thématiques autour des formations un peu génériques hein, de ces thématiques-là, mais ça part de là, on peut prendre conscience d'un certain nombre de problématiques importantes, à minima sur le climat, l'environnement, la biodiversité, l'eau, tout ce qui va sur le E de la RSE. Et puis après, il y avait une sensibilité sur le sociétal, qui était très forte à certains endroits, un peu moins forte à d'autres. Et puis après, il y avait les sujets autour de la gouvernance, ce qu'elle était ou pas historiquement. Et donc nous, ça a commencé en tout cas au niveau du Créécole par une vraie sensibilisation de notre directeur RSE de l'époque, qui était Eric Campos, qui a créé un comité scientifique proche du GIEC sur lequel on a pu être irrigué par ces travaux-là assez tôt. Et donc faire plier aussi dans le cerveau et le cœur de nos dirigeants des caisses régionales, hein, parce que nous, on est un groupe mutualiste détenu par 11 millions de clients sociétaires, hein, les citoyens du monde dans chacun des régions, d'essayer de prendre ce sujet-là, non pas comme une RSE à côté vitrine, mais une RSE qui allait devenir intégrée au business. Et évidemment, quand on a l'utilité au territoire et aux acteurs économiques du territoire ancrés dans notre raison d'être, comme c'est le cas des caisses régionales du groupe Crédit Agricole en général, forcément, ça parle, ce sujet-là, finalement. Et puis peut-être ne pas oublier au passage ce H humain un peu caché de la RSE, qui est un peu en filigrane de tout, mais qui est clé quand on a 140 000 collaborateurs et ses 11 millions de sociétaires, ses 52 millions de clients sur tous nos marchés, B2C, B2B... dans toutes les régions du monde, et qu'on a la finance durable à diffuser à cette clientèle-là pour l'accompagner dans ses transitions, évidemment, c'est assez clé. Et là où, je pense, c'est un point de force qui a été fait pour nous en octobre 2021, c'est de décider la signature de cette charte Net Zero Banking Alliance, qui nous amenait à être net zéro à 2050, en intégrant le poids carbone de nos encours de crédit client et de collecte client, avant même de savoir comment on allait le calculer. Ça, c'est un engagement que vous pouvez prendre quand vous avez le temps long, quand vous êtes capable, du coup, de prendre un peu de hauteur sur votre activité et de vous dire que il va falloir mettre en place derrière des séries d'organisations à l'intérieur de la banque, mais qu'il n'y a plus le choix, en fait. Et donc d'embarquer, finalement, tous les autres. Mais ça part de la tête, ça part de la direction générale. Et chez nous, elle est très large, puisque c'est 39 caisses régionales qui sont des banques de plein exercice, qui doivent, comme une grande famille, décider à 39, plus les filiales. Donc avant de mettre tout le monde d'accord sur ces sujets-là, ce n'était pas si évident. Le climat a mis quand même, je pense, une actualité forte devant nos yeux et a permis de faire cette bascule.
Et du coup, en ce qui me concerne, moi, l'impact premier, ça a été au-delà de l'intérêt peut-être individuel de mon directeur, ça a été quand même nos clients. Nous, tous nos clients, c'est des grands donneurs d'ordre, c'est tous les acteurs de l'énergie, EDF... les Total, Gaz de France, mais aussi des internationaux sur les projets d'infrastructure. Et c'est finalement eux aujourd'hui, alors au départ pendant les appels d'offres, qui nous ont commencé à nous solliciter doucement pour des réponses. Et puis de plus en plus aujourd'hui, on a les EcoVadis, les positives compagnies qu'on doit remplir régulièrement. Et finalement, si on n'arrive pas à construire notre démarche là-dessus, ben, on n'arrive pas finalement à être compétitif vis-à-vis de nos autres confrères ou concurrents. Ça, c'était notre première demande qui nous a impacté. Comme elle touchait l'opérationnel, ben, ça a été plus rapide à mettre en œuvre. Et puis, dans notre pool d'actionnariat, on a des banques qui aujourd'hui nous demandent notre état des lieux au niveau RSE. Et ils commencent à nous dire, ben, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, l'argent sera pondéré en fonction de vos évaluations RSE internes. Donc ça, c'est cet élément-là. Puis après, il y a les derniers qui arrivent, certains de nos parties prenantes, autres clients, où les salariés commencent à être de plus en plus à nous suggérer que ce serait bien qu'on fasse plus de choses. Et donc, c'est comment on leur montre qu'on fait des choses. Parfois, tout le monde, on en fait dans nos entreprises. Par contre, le plus dur, ça va être de le structurer et de le présenter pour que ce soit intéressé et exposé à nos salariés.
Alors... ce qui est intéressant, je vais vous laisser à la suite hein, pour les autres questions, mais ce qui est intéressant de constater avec ces deux participants, c'est que Rodolphe, qui représente un grand groupe, lui, en fait, il embarque les PME par le biais de ses clients, il va nous l'expliquer. Et Fabien, qui lui est une PME, même une grosse PME, il embarque par le biais de ses clients, lui est PME, mais il est embarqué par des grands clients, des gros clients, Et donc, c'est un peu l'inverse, c'est la situation inverse. Mais en fait, on retrouve les parties prenantes par ces parties prenantes qui sont ses clients, Fabien, c'est les grandes entreprises. Donc, en fait, ça veut dire que les parties prenantes, ça tourne. Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, finalement, vous allez être concerné. Et puis, demain, les transpositions ou le calendrier que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez très bien, enfin en tout cas si vous ne savez pas, je vous le dis, les seuils vont être revus à un moment donné, et de toute façon à un moment donné, les PME, les PMI seront embarquées. Elles seront soit embarquées avec les parties prenantes, soit embarquées par le biais de la réglementation. Que ce soit l'une ou l'autre, ou dans un troisième cas, à un moment donné, les PME seront concernées. Voilà. Alors je laisse maintenant la suite.
Justement, peut-être... On parlait justement de l'impact de l'ESG aujourd'hui. Finalement, comment vous êtes-vous structuré pour répondre à ces nouvelles demandes?
Oui, en termes de structuration, peut-être commencer par le fait que finalement, derrière le sujet de la stratégie ESG, là, qui vient se plaquer parfois de façon un peu artificielle avec le reste de la vie de l'entreprise historiquement, notamment quand il n'y avait pas cette culture-là à l'origine et qu'il faut basculer dedans, derrière stratégie ESG, il y a stratégie tout court. Et donc, c'est souvent l'occasion pour moi, quand, dans les meilleures pratiques et dans ce qu'on a pu faire, de se dire, tant qu'à faire, d'imaginer une stratégie ESG, je ne la fais pas à côté, je fais en sorte qu'elle remplace peut-être ma stratégie tout court, qu'elle l'adapte, qu'elle la rénove. D'accord ? Et du coup, je vais peut-être commencer, c'est ce qui a été fait pour nous dès 2017, par un plan stratégique qui a ensuite été triennalement renouvelé, dans lequel je vais demander à mes collaborateurs ce qu'ils veulent faire de LCL demain. En bottom-up, ça part d'une inflexion de la direction générale, mais on organise la création, l'adaptation du plan stratégique avec les parties prenantes internes. Et au passage, j'y mets des ONG externes avec nous pour nous donner une vision sur notre sujet, une vision externe, y compris un peu challenging. J'y mets mes fournisseurs, je peux participer interne et externe aussi dans la création de ça. Donc il y a plein de choses à imaginer en matière d'organisation, de structuration, de plans stratégiques qui adaptent l'ESG à l'intérieur, qui l'intègrent complètement dedans, clients, collaborateurs, marque employeur, fournisseurs. Bon. Et ça, si c'est pas toujours facile de le faire humainement dans une PME, parce que on n'a jamais animé ce genre de choses, c'est toujours venu d'un dirigeant ou d'un board et puis qui impose au reste. Il y a pléthore là de gens à l'extérieur, pas si cher que ça. On n'a pas besoin forcément des Big Four à 5000 euros le jour homme pour structurer un conseil, un freelance qui va vous aider à réfléchir à la façon d'organiser pendant quelques semaines, quelques mois, les ateliers, aller chercher le jus de cerveau des collaborateurs.
Oui, oui, souvent dans les PME, je t'interromps, Rodolphe, parce que souvent c'est, on entend le responsable de PME qui veut dire « mais nous, on n'a pas les moyens, on ne peut pas investir ». Mais c'est vrai, c'est un vrai frein. On n'a pas les moyens d'un groupe comme Crédit Agricole, LCL. Maintenant, par rapport, Rodolphe a raison, il faut mesurer tout ça et on peut avoir recours à des personnes ou en interne. Mais c'est vrai que dans les structures de PME, on n'a pas les équipes RSE internes qu'il y a dans les grands groupes. Mais on a toujours moyen d'avancer. Même si on avance plus lentement, on peut avancer quand même.
Voilà. À partir du moment où on en fait un élément stratégique global, on va se donner les moyens. Et les moyens humains en interne, malheureusement, je trouve qu'on les considère souvent pas assez. Quand on demande au jus de cerveau des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, ou même les nouveaux arrivants, ce qu'ils voudraient faire, eux, de l'entreprise demain après-demain, quand vous interrogez vos clients, quand vous interrogez vos fournisseurs, quand vous interrogez vos autres parties prenantes, quand vous allez voir les copains juste à côté, dans d'autres industries, ils jouent tous au golf le week-end ensemble. Ils peuvent se dire ce qu'ils ont fait bien et partager là-dessus, plutôt que de rester dans son silo et dire « j'ai pas les équipes, j'ai pas les moyens ».
Du coup, en exemple, c'est la filière QSE qui a récupéré la partie RSE. Mais finalement, on s'est partagé le travail avec les RH, parce qu'à le moment où j'y étais, moi, c'était plutôt le QSE qui s'occupait plutôt de la partie environnement et des appels d'offres. C'est comme ça qu'en fait, ça s'est structuré chez nous. Et par ce biais-là, finalement, on fait ce que beaucoup de gens font. On a créé notre petit comité de pilotage avec la QSE comme étant le pilote de l'animation et après RH, communication, le PDG et le DAF qui sont venus finalement s'associer à ça. Souvent, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est immature sur tous ces sujets-là, parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, j'avais une culture QSE, j'étais pas dans la mouvance RSE, même si le sujet peut être intéressant. Et ça, c'est pratique de rameuter des gens, parce que c'est des sujets où les gens ont envie de s'investir, et c'est plus facile de les attirer. Après, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on est passé par notre... Alors, je sais que parfois, des grandes structures comme BPI font ça. Nous, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, en fait, qui avait mis en place des sortes de pilotage et d'accompagnement avec des consultants où, en fait, notre équipe pilote pouvait être formée à la 26 000. Et finalement, ça a été l'étape 1, c'est que notre comité de pilotage a été formé, tous leurs membres, par la 26 000. Et c'est ce qui a permis, en fait, de structurer doucement pendant un an et demi ben, l'état des lieux avant de commencer à aller plus loin. Et maintenant, moi, j'ai une collaboratrice qui travaille avec moi. Donc, on est deux sur le sujet à l'accompagner au quotidien.
On a vu aussi des structures faire de la location, du timeshare d'experts partagés où vous engagez pas forcément dans la création d'un poste. On a vu des financements arriver sur des alternants dédiés, faire travailler les écoles de sa région. C'est très puissant, en fait. Leur demander, vu d'un jeune arrivant sur le marché du travail, comment il voit notre entreprise de demain et d'après-demain, croyez-moi, ça décoiffe un peu, quoi. Nous, on a fait les shadow comex dans les grandes entreprises, mais on peut le faire à taille régionale sans aucun problème. Et effectivement, il y a beaucoup de dispositifs financiers qui permettent de se payer ou de faciliter le paiement des acteurs qui vous aident à faire les premiers pas, acteurs slash outils.
Mais je mettrais juste un bémol, c'est que quand on est au démarrage de la prestation, nous, les consultants qui viennent nous voir, ils nous proposent des prestations à 1 500, 2 000 euros au jour pour nous expliquer ce que c'est que la RSE. Et quand on démarre une démarche RSE, on n'a pas envie de dépenser 10 000 euros, sachant qu'on ne sait pas quel est le retour sur investissement qu'on aura. Et au démarrage,
ouais, je pensais au DIAG de la BPI qui offre une subvention de 10 000 euros pour se payer un certain nombre de ses dépenses. Quoi.
C'est une remarque intéressante. Hein. On peut avoir des subventions, effectivement. La BPI est une bonne solution. Et puis, ce que dit Fabien, totalement pertinent. Si vous allez voir un responsable, un dirigeant de PME, il va tout de suite vous dire, mais quel est mon ROI ? Vous allez me demander 5 ou 10 000 euros pour me faire un diagnostic. Très bien, diagnostic, c'est important pour voir où en est votre entreprise sur les différents sujets environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Mais derrière, qu'est-ce que je vais en retirer ? Bon. Donc à vous, effectivement, d'abord d'ajuster vos tarifs, parce que nous, on peut toujours ajuster les tarifs à la taille de l'entreprise, surtout si c'est nos clients ou des prospects. Et puis après, c'est dans une logique de continuité. On ne va pas faire un diagnostic puis laisser le client tomber. On a une logique de continuité pour l'aider à mettre en place un certain nombre d'éléments de RSE, de la RSE. Et sachant qu'aujourd'hui, et Rodolphe a bien insisté là-dessus, on a quand même des volets qui sont assez pauvres, on va dire, notamment le volet social, hein, même si le volet environnemental est en train de se développer. Et quand vous regardez aujourd'hui le panorama sur les ESG, c'est surtout la partie sociale qui est à développer. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, je vais vous laisser terminer sur les meilleures pratiques, ouais. Et puis on passera après sur les freins, parce qu'on va laisser du temps aussi pour les questions-réponses de la salle. Hein ? Merci.
Bon, peut-être sur la partie meilleures pratiques, on voit quand même que, plutôt, je vais prendre le problème peut-être à l'envers, les moins bonnes, c'est de prendre le sujet que sur le volet réglementaire pour y faire le truc à minima, qui forcément va générer les coûts, mais va minimiser la pertinence des revenus en face ou des économies de charges. Le sujet quand même du E de la RSE, avec les prix de l'énergie d'aujourd'hui qui ont un peu flambé, il amène quand même potentiellement, globalement, pas mal de ROI à la clé, en étant sobre, en réinventant un peu les différents postes, en les mesurant, notamment sur le carbone, mais pas que. Il ne faut pas oublier le reste du E, de la biodiversité, l'économie circulaire, l'eau, tous ces sujets-là amènent quand même des ROI qui parfois peuvent paraître vus comme trop longs, mais in fine, on y arrive, quoi, avec un peu de temps long. Et de toute façon, si on ne le fait pas, encore une fois, on a la contrainte réglementaire qui arrive, donc ça n'est que de gagner du temps et d'être finalement plus efficient, plus malin par rapport à la concurrence qui déboule là-dessus, aux obligations qu'on va devoir produire, où effectivement le gap il est loin. Donc sur le carbone, je peux vous donner plein d'idées aujourd'hui. Dans Smart Business, voilà, on a labellisé effectivement des partenaires qui permettent de mesurer à pas trop cher. C'est pour nous Global Climate Initiative. Il y a une plateforme qui rend un peu le sujet du carbone plus self-care et rendre un peu le truc un peu facile, un peu ludique. Sur les sujets autour du pilotage de la RSE et de ses indicateurs, une fois que le gap CSRD et aider les clients à travailler ce gap, c'est des locations de plateformes qui ne sont pas finalement si chères que ça, et de la formation de collaborateurs qui permet de mesurer aussi par rapport au domaine de la QSE. Bon, c'est quelques exemples, mais et d'aller plutôt, pas simplement vers j'ai fait mon bilan carbone, j'ai fait le minima, mais plutôt vers la réalisation d'une trajectoire bas carbone un peu complète, qui permettent de bénéficier ensuite de la vision totale des ROI à la clé. Et au passage, de ne pas sillonner, enfin, encore une fois, c'est la bascule vers le S. Le S, il embarque l'humain, il embarque toutes les autres parties prenantes, et donc il permet de réinventer aussi un peu une partie de son modèle. On est tous tiers de confiance de quelqu'un d'autre dans son métier, et donc on peut remonter ou descendre la chaîne de valeur sans forcément avoir la logique d'acquisition externe en termes de croissance. Vous êtes dans le métier du chiffre, vous êtes les parties prenantes de vos clients, hyper au contact, ils connaissent tout de vous, slash auditeur, il y a plein de trucs à imaginer en partenariat aussi avec son expert comptable.
Il ne suffit pas que les dirigeants soient concernés, se sentent concernés par la RSE et par l'ESG. Il faut que toute la chaîne humaine de l'entreprise, y compris surtout dans les PME, soit concernée. C'est ce que disait tout à l'heure Rodolphe. Et Fabien va nous dire comment lui, chez lui, ça se passe cette partie.
Nous, c'est vrai qu'on commence souvent par la stratégie et la structuration de la démarche, mais on a parfois du mal à attirer les salariés. Nous, on a fait le choix, en plus des communications, on va dire, traditionnelles, parce qu'on est une sorte de gazette locale qui communique et on a régulièrement des sujets. Nous, on est parti sur le déploiement de la fresque. Donc on l'anime avec des animateurs internes. On l'a légèrement modifié, en particulier sur la fin, pour...
La fresque du climat.
Merci, la fresque du climat. On l'a légèrement modifié sur la fin, au moins pour que les gens ne se sentent pas que sur l'aspect fresque et enjeux climatiques, mais pour qu'on rattache un petit peu la partie entreprise derrière et quels sont les enjeux pour l'entreprise. On s'est aussi servi de notre bilan carbone pour en parler pendant la fresque, même si souvent les gens ont tendance à aller naturellement vers ce qui est un peu cliché aujourd'hui sur l'isolation des bâtiments. Enfin, nous, dans notre bilan carbone, ce n'est pas l'isolation des bâtiments qui compte, c'est les déplacements routiers parce qu'on a beaucoup de chantiers. Et on a souvent, nous, le retour de la fraise, c'est certes, ça a bien impliqué les gens et ils veulent de l'action tout de suite, alors que tous ces sujets qu'on traite aujourd'hui, c'est du temps, au mieux 3 ans pour les premières actions et souvent plus 5 ou 10 pour les étapes d'après. Voilà, donc, mais par contre, en termes d'action, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir accompagner tous les salariés, puisque sur 1 an et demi, on a décidé de sensibiliser tous les salariés de l'entreprise à cette risque.
Très bien. Oui, n'oublions pas, je te redonne la parole, Rodolphe, pour parler éventuellement des freins maintenant, parce que le temps avance, hein, je suis obligé de faire un peu le time taker, pour que vous puissiez poser des questions. C'est vraiment une stratégie à long terme, hein, mais y compris dans les PME. Hein. Donc c'est pas, je fais ça, comme disait Rodolphe, mon bilan carbone, et après j'arrête, je suis content parce que j'ai fait le bilan carbone. Si derrière vous n'avez pas un plan d'action, voire un mini plan d'action, ça ne sert pas à grand chose de faire le bilan carbone. Et il faut continuer, avoir une continuité, parce que ce sujet de la RSE, c'est un sujet corporate, entreprise, mais c'est un sujet humain, c'est un sujet de société. C'est une vraie réflexion de société. On avait une conversation d'ailleurs tout à l'heure avec Rodolphe à ce sujet qui disait qu'on rentre à nouveau dans une autre ère, qui est l'ère du care, ce qui est l'ère des gens qui vont aussi maintenant se remettre un peu en question de dans quel environnement je vis, avec qui je vis, comment je vis. Hein, voilà.
C'est ce que j'appelle l'hybridation, c'est-à-dire qu'un téléphone, il faisait jusqu'ici téléphone, et puis maintenant, il fait 150 fonctions dedans selon ce que vous avez. Les lieux vont s'hybrider, les fonctions vont s'hybrider, les profils des collaborateurs sont en train de s'hybrider. Et donc, il faut profiter aussi de ces moments-là, si c'est possible, hein, pour réfléchir un peu out of the box, réfléchir un peu différemment. Et nous, on appelle beaucoup à ça. Je vais vous donner un exemple concret qui m'a moins marqué. On avait une PME qui s'est fait un peu challenger dans sa stratégie RSE puisqu'il avait donné la parole à ses collaborateurs pour créer une fondation et y loger là-dedans des projets sociétaux business proches de l'activité qui était une plateforme digitale, une ESN autour des métiers de la voiture. Et c'est les collaborateurs eux-mêmes qui souhaitaient s'engager sur ces sujets-là. Et on a revu récemment les dirigeants. C'était un des axes forts qu'ils avaient choisi dans leur plan stratégique là-dessus. Ils ont monté là-dedans, il y a 100% de tous les collaborateurs, au lieu d'un tiers au démarrage, qui sont maintenant dans la fondation. Ils vont lâcher 10 ou 15% du capital de la PME. Ils ont mis là-dedans 14 projets opérationnels, dont 4 sont devenus des projets de rentabilité business qui ont rejoint le core business. Et puis 3 simplement ont été abandonnés très tôt parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas pivoté. Ils n'ont pas travaillé la fondation tout seul. Ils ont fait avec celle de Renault, avec d'autres acteurs du monde sociétaux. Et on voit que ce S et ce du business sont reliés capitalistiquement ou pas, peu importe, j'allais dire, et c'est les humains au passage. Et ce que témoignait le dirigeant là-dessus, c'est que sa plus grande surprise in fine, c'était la différence d'engagement aujourd'hui perçue 4 ans après d'avoir libéré ce sujet-là et d'avoir permis de le tester au démarrage. Et c'est ça qui allait driver probablement ensuite l'image, la suite de ce qu'ils souhaitaient faire de leur business. Et des exemples comme ça, on en a de plus en plus qui sont nés de ces séances un peu d'idéation, de brainstorming collective. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Si on la met en scène comme il faut, si on l'organise un peu comme il faut, et si soi-même, on casse un peu les codes, on lâche finalement un peu le morceau d'écharpe, comme je dis souvent, parce qu'on a peur finalement un peu de que ça ne soit que des coups, que ce soit un truc qui finalement est un peu gadget dans l'instant. Et non, on n'en est plus là, quoi.
Alors, y a un avantage dans la PME comparé à la grande entreprise, c'est que dans la grande entreprise, vous avez souvent une dimension politique importante qui est moins forte dans la PME parce qu'il y a moins de monde déjà. La pyramide hiérarchique est moins importante et le contact direct entre le dirigeant souvent et l'employé ou ceux qui travaillent est beaucoup plus court. Donc on peut plus facilement embarquer l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est un avantage dont il faut tirer parti. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, je ne sais pas chez toi, Fabien.
Mais si ça dépend des sujets, parce que la RSE, c'est une des difficultés.
Donc ça, c'est un des freins.
Hein, c'est prioriser freins, voilà. Nos sujets, parce qu'en fait, en ce moment, on est ultra sollicité de partout, par tous les sujets de la RSE. La tendance naturelle est tombée dans l'environnement. Alors, c'est important, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est au regard de nos ressources, c'est comment on priorise tous ces sujets qui veulent et où on nous demande d'aller vite, surtout. Alors, finalement, on n'est pas capable de le faire. Du coup, pour moi, c'est...
Il ne faut pas céder à la panique, ni aux contraintes réglementaires, parce qu'elles vont continuer à avancer, et ça va continuer à évoluer, hein, parce que, comme je vous disais, la directive européenne a été votée, en tout cas en France. La transposition se fait, elle va se faire, vous le savez, on en a parlé. Mais ne pas céder à la panique non, du poids réglementaire, parce que dire « Ah là là, on ne va pas avoir le temps de... Il va falloir, ça va nous coûter cher, on ne va pas y arriver, il va falloir former tout le monde », ça va se faire, tout se fait. Et tout se fait, tout se fera. Il faut juste ne pas paniquer et s'organiser. Alors c'est vrai, les priorités, il y a tellement tout devient... Non, dans les priorités, il y a toujours des priorités sur les priorités. Il y a toujours des priorités plus prioritaires que d'autres.
Nos opérationnels donc, nous rappellent un peu à l'ordre aussi.
Voilà, donc on va pas dire tout est prioritaire. Non, tout n'est pas prioritaire, c'est pas vrai. À un moment donné, dans les priorités, on va en définir des plus importantes. Hein. On va peut-être laisser la parole à la salle s'il y a des questions et puis on continue. Hein. Donc s'il y a des questions, il y a un micro là. Oui.
Bonjour, merci. Oui, j'ai une petite question. Alors c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais j'ai une question pratico-pratique, on va dire. Donc c'est Cyril Joubert, je travaille pour la certification RSE d'un système management RSE pour la Commission européenne et pour Coficer. Et alors moi je me pose une question. Quel est l'argument, alors c'est valable pour vous deux, quel est l'argument principal que vous pourriez donner concernant l'oxymore ESG-PME à des dirigeants qui critiquent le poids des normes françaises par rapport aux pays anglo-saxons? Et donc quand vous êtes une petite PME et que l'export est important, là on est tous entre premiers de la classe, puisqu'on est au Salon Pro Durable, on est tous... ou expert RSE, ou en tout cas en devenir, comment quelqu'un de la campagne, quelqu'un du terrain, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que tous ces acronymes ESG, CSRD, SSB, ISSB, d'ailleurs on va dégoûter les gens avec entre les FRAG, l'ISSB, etc. Je pense qu'il faut continuer à faire des acronymes pour être sur le terrain. Je pense que les gens, moi, n'en peuvent plus de ces acronymes. Donc quelle serait la solution pour vous pour embarquer voilà, un jeune patron qui a vraiment d'autres sujets. Et surtout quand on écoute notre ami Fabrice Boniface d'une ESG qui ne sera jamais respectée, en tout cas, même par les grands groupes.
Merci.
Moi, Fabien. Je remettrais du... Alors déjà, mon rôle, c'est de digérer tout ça, justement pour qu'après, je puisse en discuter avec mes collègues et collaborateurs. Et souvent, j'occulte ces notions de sigles. Parce que eux, moi j'ai 250 salariés qui sont des opérationnels de chantier, qui passent leur journée avec une machine de forage. Déjà quand je leur dis on va économiser du gazole, alors qu'eux ils ont besoin de la machine pour fonctionner parce qu'on ne sait pas faire autrement, ça leur passe un peu au-dessus. Même si à titre personnel, souvent ça va les toucher beaucoup plus ces sujets climatiques, etc. Et c'est plus par ce biais-là, moi, que je les fais glisser. Maintenant... Il n'y a pas de secret, on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes d'intérêt personnel. Et je n'ai pas de mots facile pour les PDG, enfin de petites structures qui vont s'engager, si ce n'est du bon sens. Parce que finalement, il y a beaucoup de sujets dans le bon sens aujourd'hui qui nous font faire des économies. On en parlait tout à l'heure pour l'énergie qui a pris beaucoup de tarifs. Déjà, dire aux gens, avant d'isoler tous nos bâtiments, bah déjà, on va essayer d'aller vers de la sobriété. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'aller vers de la sobriété, comme on a fait ça il y a un an.
On l'a tous fait l'hiver dernier, enfin, plus ou moins. Hein. Mettez un pull, vous descendez votre température de 1 ou 2 degrés. À 19, ça va encore. Hein, 19, 20, si vous étiez chauffé à 22, vous pouvez descendre de 2 ou 3 degrés. Vous mettez un pull, vous, de temps en temps, vous vous levez. Si vous avez des stations assis dans le cadre de votre travail... Bon, mais voilà, comme dit Fabien, il faut du bon sens. Parfois, ça aide.
Oui. Ouais, il y a cette notion de bon sens, effectivement, là, qui réunit un peu tout le monde, je suis d'accord. Mais peut-être, moi, j'essaierais d'abord, si je devais parler à ce dirigeant et que je n'avais pas beaucoup d'éléments pour le convaincre, d'abord de comprendre qui il est, lui, en fait, pour pouvoir m'adresser à lui de la bonne façon, en fait. Et pas plaquer une solution unique, un mot unique, une méthode unique. Si elle était connue, tout le monde la prendrait, elle aurait gagné, ce serait la licorne et tout le monde l'aurait fait. Et on voit que ça marche pas bien finalement. Et donc on y met des acronymes, on y met de la technocratie, on y met tout ce qu'on veut pour essayer de se rassurer sur le fait que ça va embarquer un peu plus les gens. Et en fait, ça fait effectivement souvent l'inverse. Alors que si vous ramenez le sujet de façon assez basico-basique à son quotidien, vous avez peut-être une Greta face à vous ou un Donald, et puis quelqu'un qui est un peu au milieu de tout ça, et évidemment, le discours que vous allez avoir, les arguments que vous allez prendre, la hauteur de vue que vous allez peut-être permettre d'avoir, ce ne sera pas la même. Donc il y a le discours de sensibilisation qui sera un peu différent, et puis après même la méthode que vous allez peut-être lui proposer pour commencer à se mettre en mouvement sera aussi différente. Et le dernier point, c'est qu'en fait, et c'est là où on a des rôles de tiers de confiance un peu agrégateurs, qui ont une vision un peu multi-secteur, multi-acteur qui peut être utile pour faire le go-between, ben en fait, vous pouvez lui montrer les meilleures pratiques. Nous, on a, pour synthétiser finalement, notre stratégie green du marché entreprise, elle s'est incarnée dans un acronyme supplémentaire, mais qui est SAVE, comme Save the World, S-A-V-E. Il y a toutes ces actions de sensibilisation et de vulgarisation, de pédagogie qu'on peut faire. Il faut d'abord s'aborder à soi-même, ce qui n'est pas toujours simple, ou de décodage. Le A de accompagner, comment je peux t'accompagner dans du financement, bien sûr, mes services de banque qui se sont greenifiés au fur et à mesure, mais aussi le servicing autour que je vais pouvoir labelliser, c'est le principe de Smart Business. Le V de valoriser, comment je vais valoriser les exemples autour de toi ou les tiens, si tu commences à les mettre en œuvre, auprès des autres, en fait, parce qu'on est tous très moutonniers, finalement, dans nos approches. Et le E de être soi-même exemplaire, en fait. Qu'est-ce que je peux démontrer ? Moi, le tiers de confiance à côté de toi, comme pour le tiers de confiance qui est l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, qui t'incitera, avec peut-être d'autres tiers de confiance, à te faire basculer dans l'action et « ah oui, quand même ». Dernier point, si de toute façon tu ne le fais pas, tu es en train de te déclasser, à un moment donné, ça va te rattraper. Et voilà en quoi ça va te rattraper. Je joue finalement ton lanceur d'alerte, ton Jiminy Cricket, selon où je me place d'un côté ou de l'autre, pour te montrer le futur avant que... Et essayer de te convaincre qu'il va arriver vite.
C'est vrai que la question est pertinente parce que embarquer les chefs d'entreprise, c'est eux aussi qui donnent le là dans leur PME après, dans leur structure, c'est ce qu'on disait, pour embarquer tout le monde dans l'entreprise et tous les salariés. Et si eux, ils ne sont pas concernés, et c'est aussi au pouvoir public ou aux instances réglementaires. Là, vous disiez normes françaises, c'est les normes européennes qui sont transposées dans un pays, hein, en l'occurrence la France, mais tous les pays européens. Donc, c'est vrai que malheureusement, on est rempli d'acronymes. ESRS, qui a envie de se souvenir de ça. Déjà, CSRD, c'est déjà compliqué. Tout ça sont des acronymes anglo-saxons. Oui, bah oui, mais on est dans l'Europe. Donc, voilà, les PME, elles sont aussi européennes. Les PME françaises travaillent avec l'Europe ou d'autres pays, la France, mais aussi d'autres pays, des pays du Maghreb, des pays de l'Afrique, d'autres pays du monde. Et donc, on est européanisé. Voilà.
Peut-être
aussi.
Un dernier point, pardon, c'est que en fait, quand vous faites un peu à 360 degrés le tour des parties prenantes, lui ne connaît pas ce terme-là, des parties prenantes. Mais quand vous discutez avec ce chef d'entreprise, qu'il a des problèmes pour embaucher des gens, pour les garder, qu'il a des problèmes pour payer effectivement l'énergie, etc., qu'il a des problèmes pour répondre aux besoins de ses fournisseurs de rang, ou lui-même de rang 1 ou 2, ou la banque, ça commence à être problématique s'il ne fait pas non plus le job. Et en fait, en ayant cette petite cartographie à 360, il finit par se résoudre que, bah oui, le monde a peut-être un peu changé là, Et si lui était un peu en retard, il va y aller.
Donc peut-être la solution, c'est le care du chef d'entreprise, ouais, de cette façon-là. Donc prendre soin du chef d'entreprise, mais par rapport à ce que viennent de dire Rodolphe et Fabien. Voilà. Oui.
Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Ma question s'adresse à Fabien. J'aimerais savoir votre équipe de pilotage que vous avez formée à la FEP 26001. Quel était l'effectif par rapport à votre effectif complet et qui avez-vous formé et pendant combien de temps ?
Alors, la formation s'est déroulée sur 8 mois et du coup, on a eu à peu près une session par mois sur les différents chapitres de la norme 26000. Et c'est en fait l'avantage de l'avoir réparti comme ça sur plusieurs mois. Ça nous a permis sur chacun des dossiers de s'approprier un peu et finalement de mettre en pratique après, puisqu'on avait des devoirs. Et on devait traduire les exigences de la norme sur comment finalement on pouvait faire notre état des lieux et construire l'intégration des exigences 26000. Donc c'est vrai que le consultant était venu avec des grilles et nous on a complété, on a structuré pour finalement progressivement construire notre stratégie sur le sujet RSE. Les pilotes, c'était en fait, ils ont été trois, donc j'ai été l'un d'eux avec ma responsable com et une responsable d'agence opérationnelle. Qui est venu compléter ce trinôme, parce qu'après, c'est nous qui rendions compte au comité de pilotage, justement, des avancées et de comment faire travailler le comité de pilotage sur la stratégie, dans laquelle, après, on faisait intégrer, cette fois-ci, les décisions aussi du PDG et des RH et du DAF. Voilà.
Une autre question, peut-être ?
Une dernière question ? Parce que... Oui ?
Pas mal, nous, de PME dans la démarche RSE. Et votre cas, Fabien, est assez courant d'être un QSE et de se retrouver à prendre la responsabilité de la démarche RSE. La question que j'ai, elle est double. Elle est sur... là, vous avez quelques années de REC sur la mise en place de la démarche. Et quel serait votre conseil ou qu'est-ce que vous feriez différemment ? Et du coup, l'autre question qui en découle, quels seraient vos conseils pour réussir son lancement de démarche dans une PME ?
Oui. j'ai eu un atout, c'est que mon PDG était déjà très impliqué et parfois il savait plus de choses que moi en RSE. Donc ça m'a quand même bien aidé parce que de temps en temps il me glissait des petits sujets, même si tout le CODIR n'était pas forcément mature sur le sujet. Donc ça c'est un atout qui n'a pas de prix. Voilà. Le deuxième sujet, c'est qu'on a été en croissance forte et finalement ça nous a aussi beaucoup aidé à intéresser les gens à ce sujet parce qu'on grossissait très vite, très fort, et finalement rajouter de la RSE alors qu'on recrute beaucoup, et finalement, alors là je vais côté un peu pub, mais on fait un peu de pub de ce qu'on fait dans la RSE, et finalement moi lorsque je fais des recrutements, les gens me disent c'est bien ce que vous faites dans la RSE, même si finalement j'ai mis trois infos qui n'étaient pas forcément très enfin selon moi qui n'étaient pas les plus intéressantes, mais eux s'attachent beaucoup aux informations qu'on donne.
Oui, ça fait sens en fait, hein.
Exactement. Après, ce que je ferais différemment, il y a des sujets qu'on a construits ensemble, et parce qu'on était un peu novice sur le sujet, j'aurais tendance à dire tant mieux que j'ai trébuché régulièrement, parce que mon CODIR a été obligé de discuter certains projets que j'avais en tête et je leur ai imposé des choses, et ils m'ont dit non Fabien, ça c'est pas du tout possible, soit c'est trop cher, soit c'est disproportionné, et ils ont été obligés de se positionner avec leurs idées alors qu'ils n'étaient pas prêts à le mettre en œuvre. Donc je ne sais pas si je le ferais différemment, mais en tout cas, le fait d'avoir trébuché régulièrement avec tout le monde, ça les a obligés à être partie prenante dans les projets pour avancer sur ces sujets-là.
Et excusez-moi, mais va falloir qu'on arrête, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc je vais remercier fortement Rodolphe et Fabien, et la salle aussi. J'espère que ça a répondu un peu à vos attentes. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours échanger après, évidemment.